Hier, on avait Béatrice Bézard.
Ah bon, d'accord.
Et voilà, parce que ça y est, elle est plus prof.
Ah oui, elle est adjointe, je crois, directrice adjointe.
Titularisée. Directrice, tout ça.
Directrice.
Celle qui supervise les profs de philosophie.
À Saint-Étienne.
Oui, oui, oui. Et il y avait... Et sinon, hier, on avait encore un autre prof de philo qui s'appelait... qui était à Saint-Badel.
D'accord.
On a Véronique, celle qui est sur le forum. Sur le forum, on l'appelle Isabelle, c'est le pseudo. Littératrice. Prof de philo, elle aussi. Cette année, elle va habiter à Saint-Badel parce qu'elle a un poste philo près de Clermont-Ferrand, enfin pas loin. Je sais pas où. Il n'y a que des profs de philo qui viennent ici.
Qui se posent la question pourquoi ils ont atterri ici. Je ne sais pas si je resterai. Là, j'ai trouvé ici un jour.
Ouais.
Je sais pas si je resterai pas, j'en verrai.
De toute façon, on se pose pas de questions. Si...
Peut-être plus m'en poser, hein, parce que de toute façon, ça n'a pas de sens, mon cœur. Est-ce que je fais ça?
Il va y en avoir des bouleversements ça, cette année. Se calme. Et moi aussi j'ai fait de la philosophie, j'ai failli vous quitter il y a dimanche dernier. Puis ils m'ont ranimé quand même. J'ai été ranimé. Sœur Sainte-Brigitte était là, le docteur. J'ai eu un petit... C'est spécial d'avoir un frère jumeau, tu sais. Normalement, ils se suivent, c'est sûr. Bon, mais apparemment, ça n'a pas marché, donc... Mais c'était après le sermon, je ne me rappelle plus, je me rappelle vraiment même plus du tout, mais je me rappelle que j'avais fait un sermon, une messe en tout cas, qu'à la fin de la messe, j'ai pensé que le sermon c'était pas suffisant, sans doute, et donc à la fin de la messe, parce que c'est pas ça, j'ai dû faire une petite prolongation, tu vois, sûrement très intéressant, puisque c'était censé être mes dernières paroles. puis on a fait l'action de grâce, puisque c'était la fin de la messe. Ça, oui. Avant l'action de grâce, ben, je fais une petite prolongation. Tiens, j'ai même pas eu la curiosité de regarder qu'est-ce que j'avais pu raconter pendant pour ma dernière monition sur la Terre, mais bon. Donc on fait du coup, quand tu as fini tes monitions sur la Terre, hein, les paroles inutiles sont devenues maintenant totalement terminées, grâce à Dieu. Bon, il ne te reste plus qu'à rester en silence, hein. Le silence du purgatoire. Voilà. Donc on a fait je vous le dis, mais je me rappelle pas. C'est par déduction que j'essaie de prendre le fil. Et on fait donc la malheureusement, comme toujours, enfin, après l'action de grâce. Et puis à la fin, comme d'habitude, on te tim. Tim. Tu m'as dit, c'est ça, vrai, ça, c'est fini, ça fait 20 minutes. J'essayais un petit tim, tu sais. Tim. Ah, ça vient. Et du coup, je dis, bon, maintenant c'est le moment de dire la prière de consécration, très bien. Et là, terminé. J'ai essayé d'ouvrir la bouche quand même.
Paralysie aussi, tu vois.
J'ai rien vu. Hein. Quand tu meurs, tu le vois pas. Hein. J'ai rien vu du tout. Hein. Ça, j'ai sorti, je vois. Ça, je me rappelle, j'ai essayé d'ouvrir la bouche. La langue, la motricité du langage, en tout cas, elle ne marchait plus. Ça ne marchait plus. C'est marrant. C'est la première fois que ça m'arrive, ça, d'avoir un blocage de la motricité.
C'est un AVC, donc ou...
Non, parce non. Que, je sais pas, moi, j'ai rien senti, j'ai constaté que je pouvais, que... Hein? Mon frère, quand il est arrivé à la porte de l'église de Saint-Gervais, qui est à Saint-Gervais, Saint-Protais, c'était à Paris, hein, c'est deux jumeaux hein, qui sont martyrs, à Milan, c'est-à-dire là où il y a eu la Santissima Romina. Le jumeau martyr à Milan, tu entends me parler, Saint-Gervais, Saint-Protais. C'est là qu'il a posé un genou, il allait rentrer dans l'église, sur la rampe, là, et puis, voilà, il a posé un genou par terre. Mais il pouvait ouvrir la bouche, hein, et il s'est allongé. Respire encore. Mais en fait, il était pas mort, mais c'est sûr que son âme était en train de partir par les pieds. Par le bas. Ouh, comme ça. Donc, quelque part, il sait pas. Tu le vois pas quand tu t'en vas. Il a rien senti du tout. Il a rien vu. Voilà. On a eu le temps de faire venir le père Jean-Baptiste, là-bas, qui était de l'autre côté de la porte. C'est ça, c'est pour ceux qui ont fait les oraisons de Sainte-Brigitte, tu sais, là, tu meurs, tu réalises que tu es mort après. Oui. Tu le vois pas, parce qu'on vient te chercher. Jésus vient te chercher, enfin, le bon Dieu vient te chercher. Oui. Donc tu le vois pas que tu meurs, c'est pour ça que Jésus dit. Ceux qui me suivent ne connaîtront pas la mort. Effectivement, il n'y a que ceux qui... Quand tu meurs et que tu le sais, que tu le vois et tout ça, tu vois, quand tu dois... Tu n'as pas fini d'être purifié, il y a encore des zones en toi qui n'ont pas été complètement... purifié dans l'union transformante, tu dois aller en Jésus, dans le Christ, ça c'est sûr. Tu dois te laisser étreindre par lui pour aller au purgatoire, d'accord. Qui n'est pas désagréable du tout d'ailleurs en plus, parce que c'est quand même dans le dans la lumière du Christ, tu es à l'intérieur de lui, c'est, purgatoire, c'est génial, c'est comme une espèce de raison parfaite, mais c'est pas le ciel. En tout cas, tu le vois que tu es en train de mourir. Tu vois que tu ne vas pas au ciel. C'est ça. Enfin, pas tout de suite, disons, voilà. Si tu vas au ciel, puisque tu rentres dans la source d'amour la plus immaculée qui soit. Voilà. Mais c'est qu'en vrai, les autres Sainte-Brigitte, c'est Jésus vient les chercher et il les amène, dans la vision béatifique. Ils vont pas au purgatoire. Mais moi, personnellement, c'était pas. Comme j'ai pas fini mon pèlerinage pour la purification dans l'union transformante. Les gens qui m'ont réanimé, moi. Elle est chouette, président. Hein,
oui.
Hein. Alors, ça a été vraiment un truc complètement dingue. C'est génial, cette histoire de toute cette sainte de garde. Et ça.
Qu'est-ce qu'elle
voilà, tous les quarts d'heure, quoi. C'est une espèce de. À droite, à gauche, des MSO maximum. Et puis finalement, je sais pas si c'était la nuit ou c'était le matin, je m'en rappelle plus. C'est le matin. Voilà, non, je crois que le soir, je pouvais reparler un peu.
Oui, vous avez célébré la messe.
Voilà. Non, pour la messe, ça n'empêche pas de célébrer la messe, c'est marrant. Hein.
C'était le dimanche, c'est ça.
C'était dimanche.
Oui, parce que je crois que Pierre avait essayé, comme il y avait Père Nathanaël.
Ah ouais.
Père Michel maintenant.
Ah non, j'étais naze là. Ils auraient pu venir, mais.
Non. Et... Ouais.
Non mais ils auraient pu venir, mais c'était pour me donner l'extrême onction. Oh. Hein. Ils auraient pu venir, mais moi je.
Ouais. Il vous a pas voulu, Père. Il vous a envoyé sur terre.
Non, mais l'extrême onction, c'est pas pour. C'est pas pour partir à l'extrême onction, c'est au contraire, c'est pour prolonger notre pèlerinage. L'extrême onction, c'est pas du tout. C'est un sacrement qui permet justement de prolonger ces jours un peu encore plus. Ah. Non mais elle est belle votre rose. Hein. Ah oui. Très chouette. Dites-moi la date où on a intronisé Marie-Reine à Saint-Jean-de-Védas. C'était en 80.
On avait intronisé déjà en 87.
C'est 87.
À Montpellier et puis après à Saint-Jean-de-Védas. Je ne me rappelle plus.
Hein?
À Montpellier, c'était le père. Oui. Marie Bernard, je crois, des Carmes, qui nous avait intronisés en 87. Et après, Saint-Jean-de-Védas, ça devait être en. Je ne sais plus, 92, je ne sais plus.
87, 92, tu vois. Ça fait 40 ans, quoi. Enfin, plus de 40 ans, hein, c'est ça. Ça nous rajeunit, tout ça.
Oui. Je me rappelle la première fois où je suis venue vous attendre au trait.
Avec
Rosemary.
Il y avait le bambino, le bambino, il était là. Il était là.
Oui, à Saint-Jean-de-Védas, oui.
Oui, il était. Toi, tu n'étais pas là, toi.
Elle est née en 90. Hein.
Après Rosemary.
C'est après Rosemary, oui. Rosemary.
Tu n'étais pas là. Tu as fleuri dessus.
On vous a connu. Hein. 87-88, on vous a connu.
Vous avez été le premier à prendre dans les bras.
Quand elle est née.
Vous y êtes arrivé après. Je ne sais pas comment vous avez fait.
C'est moi qui... C'est pas moi qui... Et tu, on t'a baptisé aussi.
Oui, oui, oui. Le 11 février. Vous aviez dit le 11 février pour qu'elle soit baptisée.
Bon, on l'avait envoyé avant. Hein.
Vous n'aviez pas pu venir. Vous aviez demandé apparemment à Jean-Baptiste d'être
de
mon
parent
remplacer,
de
enfin, de vous représenter. Pas être mon parent de substitution, mais de vous représenter. Et vous êtes toujours représenté après pour la confirmation aussi.
Non. Ouais. Non. Ah oui. Rien. Ça c'est de l'amour, hein. Sur la terre pour en partir le plus vite possible. Sauf qu'il va y avoir le monde nouveau. Ah. Faudra pas partir le plus vite possible là, une fois qu'on y sera. Parce que là, ce sera trop fort. Il faudra rester ici. Ce sera l'extrême onction, finalement, une espèce d'extrême onction spéciale. Oh là là, on va rester, tu te rends compte, des siècles et des siècles sur la terre. Toutes ces misères que nous fait l'esprit du monde, disparu. Pas trop tôt, hein. Tu te rends compte, on aura attendu 2000 ans hein, pour que le royaume de l'amour, de la lumière, de la paix surtout. Puisse commencer un peu à travailler un peu sur la terre, je veux dire. C'est génial quand même ce qui. Hein? 90, tu es né, toi. Mmh. Mais t'en as de la chance.
Sortir l'anneau de Jeanne d'Arc.
Oui. Je pensais qu'il viendrait nous amener l'anneau de Jeanne d'Arc ici.
Mais c'est la Vendée.
Pour protéger la Vendée, pour bénir la Vendée et pour consacrer la Vendée.
Au sacré cœur de Jésus et au cœur immaculé de Marie. L'évêque a...
C'est avec les colons.
Oui.
Ah, les chevaliers de colons.
Ah oui. Ils ont transporté l'anneau de Jeanne d'Arc et ils ont fait la consécration de la Vendée. Et il a demandé à l'évêque de porter aussi les enfants non nés.
Oui, j'ai cru voir passer ça. Oui, et puis on revient le grand miracle qu'on attend depuis 40 ans, c'est ça. Hein, je vous ai envoyé le truc samedi et 24 et dimanche 25. Ils font un truc chez Dieu pour les enfants. Oui. Je vous ai envoyé ça.
Oui.
Hier oui. Il faudra être là. Hein. J'espère que vous ne serez pas parti, je ne sais pas où. Non, mais il faudra être là, faut le soutenir parce que
C'est l'après-midi, c'est pas toute la...
15h.
15h à 16h, hein, je crois, tu sais.
Il risque sa peau, hein.
Le père Olivier Marie.
Ah ouais.
Oui.
Ah ça, ouais.
On l'a vu à la télé l'autre jour sur KTO.
En Corse.
Il était en Corse, il était interviewé.
Ouais. Ça fait scandale, voilà. Cette émission, ouais. Yeah. vous inquiétez pas. On va peut-être... C'est le tremble, peut-être.
Belle messe pour l'Assomption à la chaise Dieu. Nous sommes allés à la chaise Dieu. Même on s'est retrouvés, oui, oui. À la chaise Dieu avec Pierre. Comment ?
C'était le père Olivier Marie.
Le père Olivier Marie qui célébrait, oui. Comme Pierre, après, le lendemain repartait, on s'est donné rendez-vous à la chaise Dieu.
C'est grâce à vous qu'il s'est décidé, alors.
De quoi ? De quoi ?
Certainement.
Ils se sont confessés après. Il a demandé à... Il a dit qu'il pouvait confesser après la messe du 15 août. Donc des personnes, il n'y avait pas beaucoup de monde qui sont allés se confesser. Bon, nous, on s'était confessé à Père Michel, déjà.
Et du coup, lui, il s'est confessé au Père Jérôme le Noaec. Il m'a dit ça hier. Le Père Noaec, il m'a dit...
C'est
celui qui vient me confesser, c'est le Père Antéchrist là, qui est tout seul dans la forêt, à Saint-Bathel. Il vient se confesser ici, et moi je le confesse aussi, mais comme ça réciproque. Qui est très 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 gentil. Lui, il dit la messe de Saint-Pie V parce qu'il était ordonné par Mgr Lefebvre. Et il dit la messe de Saint-Pie V, ça. Mais parce qu'il n'a jamais rien connu d'autre, c'est tout. C'est pas mec. Pas du tout. Alors il dit, moi, les gens qui viennent là, ils viennent chez moi. Les gens viennent chez lui pour la messe, parce que c'est en latin, parce que tout ce que tu veux, mais... Il y en a qui viennent parce qu'il n'y a plus de pape, hein. Le pape n'existe plus depuis Pie XII. Depuis Pie XII, il n'y a plus de pape. Sur le bon registre, à un moment donné, c'était... Non, depuis l'an XIII. Depuis l'an XIII, il n'y a plus de pape. Pendant longtemps, des gens... J'aime bien qu'ils viennent ici aussi, mais disait depuis. Ah oui, depuis. Celui-là, j'étais hier chez lui, c'est là qu'on a mis une. Lui, il disait. Il était convaincu pendant des années que Paul VI était toujours vivant. Je me dis, mais enfin, quand même. Il a 132 ans. Ça montre que les gens sont paumés, hein. Non, mais pour en arriver là, quand même, même si on croit au miracle. Bon, maintenant, il est plus dans ce... Il est plus là-dedans du tout, hein. Heureusement, pas depuis longtemps, hein. Mais maintenant, ça va. Si, il a compris que c'était idiot. Que Jésus, c'était pas comme ça, que Pierre, c'est infaillible, que c'est une... Ça y est, de plus en plus, ils vont comprendre. Alors donc, le brave père Noé, quand il dit la messe, il dit, moi, les gens qui viennent chez moi, c'est la messe... Je dis, vous dites Una cum Papa Nostro Francesco Primo? Est-ce que vous dites la messe, sacrifice, le saint sacrifice de la messe de toujours en disant Una cum, en communion avec le pape François?
Hein? On peut avoir des idées différentes.
Mais... C'est la grande question. Mmh. Enfin, c'est la grande question. C'est pas la grande question. Mais j'ai eu la curiosité. J'ai dit, je vais avoir la curiosité de lui poser la question quand même. Parce que tous ceux qui vont là-bas, c'est... alors il m'a répondu, il m'a dit, ben, vous savez, ce que je sais très bien, quand on dit la messe de Saint-Pé-V, les gens. Ils savent pas ce que je dis. Tu vois? Teguito, et puis. Chut. C'est dans, mentalement, qui continue. Moi, quand je dis la messe en latin, vous m'entendez dire tous les mots. Je dis tous les mots. Mais quand tu dis la messe à Pessac, normalement, tu dis te quito, puis clémati me pater per emblem Christum Domino sum, les gens n'entendent pas. Tu le dis juste à peine avec les lèvres, et même pas quelquefois, juste mentalement. Donc les gens, ils n'entendent pas s'il dit una cum Papa Nostro Francesco Primo, ils ne l'entendent pas. Donc ils ne savent pas. Il dit, mais. Il dit bien sûr, le pape c'est jusqu'à la fin du monde. Donc
lui il le fait avec le pape.
Mais il dit bien sûr je le fais, mais il dit ben non, c'est sûr que c'est quand même drôlement commode la messe d'un P5 parce que si ça s'entendait, il vous écorcherait vif. Hein. Alors il rigolait, il dit ben oui, c'est. Et il t'a dit à la fin, tout ça, toutes ces bêtises, elles vont s'évanouir. Et puis il ne restera plus que le sacrement, et puis c'est tout, et son fruit, et puis voilà, le reste. Que la terre soit secouée. De la tristesse, tout ça. Mais qu'est-ce qui est gentil, je l'ai revu hier, mais il a trouvé la solution, lui. Il s'est mis dans la forêt.
Il y a une grande chapelle,
il a des. De granges.
D'accord.
Ah, il a un truc bien, hein. Attention, c'est une demeure qui appartient à ses deux frères, qui sont pas là du tout, hein, parce qu'ils sont, je sais pas où, il est tout seul là. C'est vrai. Alors il y a une chapelle au deuxième étage, troisième étage là-haut, mais les gens vont pas là parce que ça c'est. Et sinon, il y a des granges. Et il y a une grange, on peut rentrer 70. Donc les gens vont à sa messe là. Ça fait un peu catacombe. On y vient par un petit chemin de terre.
Et... C'est un père ermite, donc.
Non, je vous dis, il a été directeur de il a, c'était un éducateur, c'est lui qui était s'occupait de, après avoir été ordonné par Mozart Lefebvre, il a dit, bon, ben, on va faire, à trouver des gens, tout ça, qui sont dit qu'ils l'ont aidé, tout ça, et puis ils ont fait une école, quoi, hein, une école pour les garçons, voilà, une école pour les garçons, la sixième interminale, voilà. Pendant... On a fait ça pendant 30 ans, peut-être. Je sais pas, à Fangeau, c'est là où... Au Saint-Dominique, Nique-Nique.
C'est dans les Alpes, Fangeau.
Enfin, non, pas du tout. Fangeau, c'est près de Sorèze, c'est pas du Tarn.
Ouais,
c'est entre Carcassonne et Castres. Alors, et Fangeau. Et donc, il a fait, et là, il y avait tous les gens de la région envoyé leur fils là, parce qu'au moins, voilà, mais quand même, il a, chaque année, au bout de 20-30 ans, après ils passaient leur bac, etc., puis il y en avait quand même, il a fait 50 prêtres quand même en l'espace de 30 ans, hein, c'est pas deux par an. Plus que 50, ouais. Ouais, deux parents. Ouais. Voilà. Puis, du coup, il a pu être remplacé. Enfin, je sais pas. Je sais pas comment ça se passe c'est une il y a une hiérarchie aussi quand même. Il y a des évêques. Peut-être qu'il était très content de savoir qu'il y avait ce qu'on appelle le bon pasteur, c'est-à-dire que, comment ça s'appelle-t-il, le pape Benoît XVI, Jean-Paul II d'abord, Benoît XVI aussi. Si, mais voilà, c'est unacum et puis c'est tout, on arrête de se tirer dessus. En disant que le pape Paul VI est toujours vivant. Au bout d'un certain temps, c'est tellement ridicule. Hein. Donc oui, mais eux, ça a dû faire une bagarre entre eux. En disant, monsieur, le pape Paul VI est toujours vivant. Tu sais pourquoi? Parce que le pape Paul VI, eh ben voilà, maintenant, c'est nous qui dirigeons le Vatican, hein, Benigni, Villot, Casaroli, les francs-maçons. Et c'est vrai que c'est eux qui dirigent le Vatican. Ça,
qui,
c'est ça.
Qui a été
les cardinaux, Bucnini.
Oui.
Ah, tu n'es pas au courant que le Vatican est complètement, à 100%.
Et pas Paul VI. Ah.
Non, mais pas Paul VI. Donc, qu'est-ce qu'ils ont? Ils avaient tout le pouvoir. C'est pour ça qu'ils ont martyrisé, ils ont tué Jean-Paul Ier. Ouais. Et pour cause, voilà. Et donc, il n'y avait plus personne au Vatican qui n'obéit qu'à eux seuls. D'accord?
Ouais.
Donc, Paul VI, ce qu'ils ont fait, c'était avant sa mort officielle, disons, réelle aussi, je crois. Enfin, non seulement je crois, j'en suis sûr, mais c'était eux qui gouvernaient le Vatican. C'est pour ça qu'il y a eu la communion sur la main, c'est la franc-maçonnerie, quoi, ecclésiastique, mais c'est pour ça qu'il y a eu la communion sur la main, le changement des préfaces d'ordination, etc. Enfin, un truc complètement dingue. Mais complètement dingue. Et puis Paul VI, parce que quand même, s'il est encore vivant, bah oui. Parce qu'ils savent quand même, qu'ils sont consacrés aux démons, ils savent quand même que pour qu'ils continuent à avoir le pouvoir, il ne faut pas qu'il y ait de pape. Mmh. Ou du moins, il faut qu'il y ait un pape. Il faut qu'il y ait un pape, mais sans pouvoir. Mmh. Voilà. Donc, et ben, ils ont pris Paul VI, et puis ils ont fait comme vous, comme toi avec ta rose. On va le rendre immortel. On peut le faire maintenant, techniquement. Hein? Chut. Hop, t'es pas mort. On te congèle, enfin, on te... Je sais pas, on est technique. Donc, effectivement, le pape Paul VI, on peut faire ça. C'est pour ça qu'il dit, c'est pas impossible du tout, techniquement, de prolonger le pape Paul VI, encore 10 ans de plus, 20 ans de plus, 30 ans de plus, tu vois. Stop. Hein, pas compliqué, une deuxième piqûre, il se réveille, il dit, oh, finalement, je suis pas mort. C'est ça, les hypothèses. Tu sais, c'est pas impossible. Aujourd'hui, c'est pas impossible. Aujourd'hui, on peut prendre un vieux, on lui dit, écoutez, voilà, très bien, je te fais une piqûre, et hop, tu n'es pas mort. C'est seulement, comment on pourrait appeler ça,
cryogénéisé.
Endormi, c'est tout. Enfin, on t'endort, enfin, on te met sous... Et on peut te réveiller, on sait faire ça. On peut te couper la tête, là t'es mort, d'accord? Mais on peut te faire une piqûre, et puis t'anesthésier, voilà. Tu es comme mort. Mais tu n'es pas mort si tu es une espèce de... Tu es dans une espèce de coma artificiel.
Les fonctions vitales vont finir par se dégrader quand même.
Non, parce que dans le coma artificiel, tu peux rester des années. Il suffit de faire ce qu'il faut pour ça. Il y a des sérums, il y a tout ce que tu veux, et puis voilà. Donc, c'est pas... On en a fait des films, d'ailleurs, des gens qui disent, tiens, voilà, je fais un truc pour pouvoir me réveiller dans 200, dans un siècle. Il y en a qui sont proposés de faire ça pour se faire cryogéniser, et puis pour, il y a eu des films avec Schwarzenegger.
Non, mais ça dure pas après. Hein? Ça dure quelques années, mais après, ça dure pas un siècle. Ça peut pas. Surtout si la personne elle a déjà un âge avancé.
Après, les personnes ne peuvent pas se réveiller et être comme elles étaient avant.
Si, c'est eux, parce que là, si t'es pas mort, l'âme est toujours dans le corps.
Ouais.
Si, bien sûr que si, qu'on peut faire ça.
Et ces mafieux, ils existent toujours à Rome.
Hein?
Ils sont toujours à Rome, ils dirigent toujours la province.
Mais non, mais tu te mélanges tout, toi. Les vieux, les machins, ils sont morts, évidemment. Ils sont morts. On peut imaginer qu'ils ont dit, voilà, ils ont des successeurs pour diriger avec Satan et la franc-maçonnerie l'ensemble de l'Église catholique du monde. Les francs-maçons, ils n'ont pas disparu avec la mort de Villot, de Bugnini. Et ils ont des successeurs. Hein? Bon, si vous voulez, on peut vous acheter un petit bouquin qui s'appelle Le message de la Salette, par exemple. Savoir ce qui se passe quand même dans la Sainte Église catholique. C'est une guerre, hein, c'est une guerre triste, hein, c'est pénible parce que bon. C'est pénible. C'est pour ça, bon, c'est pourquoi on va l'encourager, Olivier Marie. Il dit, attends, c'est risqué, hein.
Donc
Paul VI, bien sûr qu'il est mort, mais les gens, je vois que vous comprenez absolument pas.
Non, mais si.
Bien sûr qu'il est mort, le pape Paul VI.
Mais oui, mais ça, j'en doute pas.
Mais les gens, eux, ils disent, ah...
Ce que je comprends pas, c'est cette histoire de francs-maçons qui veulent cryogéniser ou conserver Paul VI.
Ils disent, les francs-maçons, pour garder le pouvoir... Ils ont gardé le pape Paul VI vivant, comme ça il y a toujours le pape, et comme ça ils continuent à gouverner eux-mêmes, en pensant qu'ils mettent un espèce de pape qui n'est pas le pape, puisque c'est le pape Paul VI est toujours vivant. Donc les papes qui viennent après lui ne sont donc pas des papes.
D'accord, donc ça c'est la.
Et donc il n'y a plus de pape depuis Pie XII. C'est tout, voilà. Voilà, et donc ils ont l'acte. Donc si tu dis où, la messe, en communion avec le pape François, mais c'est que tu es un cinglé, tu n'as rien compris de ce qui se passe depuis la soi-disant mort de Paul VI. Enfin, on peut avoir dans son. Il faut une explication de toute façon, parce qu'il y a quand même une doctrine. Tu ne peux pas vivre dans l'Église catholique jusqu'à la fin du monde s'il n'y a pas un pape. En plus, c'est la foi catholique, c'est le dogmatique Vatican I, 1870. Faillibilité, elle a des conséquences pratiques, hein, le dogme de la faillibilité de Pierre. Hein, voilà. Alors du coup, lui, il me dit, c'était pas hier. Non, il dit, vous avez de la chance parce que, comme ils ne vous entendent pas, s'ils vous entendaient, ils vous étriperaient. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, du coup, il y a une bagarre entre eux, les intégristes. Vous êtes fous, bien sûr que non. Bien sûr que non, il n'y a pas de pape. Et lui, il dit, bien sûr que si, il y a un pape.
Entre eux, ils ne sont pas unis, quoi.
Personne n'est uni, même entre nous, on n'est pas unis, même nous, on est. Même nous, on est, je sais pas ce qu'on a, mais l'unité, elle n'est pas là où on pense. Elle est dans les trois blancheurs, c'est pas compliqué, l'unité. Et elle est dans l'ouverture du cinquième épisode de l'Apocalypse qui, nous l'espérons, aura lieu d'ici Pâques 2026. Après, tous ces trucs-là vont s'évaporer automatiquement. Chut. Automatiquement. Puisqu'on a un refuge dans l'unité intérieure, indestructible. Et irrepérable. On sera avec le roi, et donc c'est pour ça qu'il a fait la Jeanne d'Arc. Pierre-Hélène, la Jeanne d'Arc. Voilà, donc. Alors, du coup, ben, à Fonjo, je suppose. Je vais pas poser la question. Je vais pas farfouiller dans leur conflit interne. C'est comme moi, je vais pas lui raconter les histoires complètement dingues que j'ai avec le Père Saint-Jean. Bien sûr, pas lui raconter. Je raconte pas non plus à vous non plus, hein. Quand même, faut pas scandaliser les frères, les faibles, comme on dit. Comment ça se fait que le père Marino, pour se raccrocher comme ça, il lui fait des conneries aussi. Un mec comme lui. C'est dingue.
On s'est jamais gagné.
Hein?
C'est jamais gagné le ciel.
Beaucoup de personnes
plus
aussi.
Important, plus ou moins.
Il était monté sur un piédestal aussi. Beaucoup de personnes peut-être ont fait aussi ça.
Oui, mais il fallait qu'il tienne.
Comme vénérer, tout
il
ça, oui.
Il fallait qu'il tienne. Il s'est raccroché à quelque chose qui... Alors, pour lui, c'est pas grave, pas de problème. Il n'y a pas de cause imminente dans la grâce sanctifiante, mais pour ceux qui... Chez les frères de Saint-Jean qui sont rencontrés, beaucoup de rentrer dans les ornières que ça a impliqué chez nous, et qui sont du coup devenus des pervers d'une perversité satanique absolue, quoi, des criminels aussi, hein, n'hésitant absolument pas à tuer. Des frères de Saint-Jean, des pères de Saint-Jean. Comprenez pour les saints. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Comment ça se fait que l'évêque Cochon ait brûlé Jeanne d'Arc, par exemple? C'est complètement dingue. C'est un prêtre quand même, c'est un évêque.
C'est horrible.
Il disait la messe tous les jours, il priait. Il priait vraiment, quoi, le Père Monseigneur Cochon.
Il priait, mais il ne suivait pas Jésus.
Bah si, donc, si, mais Jésus parce que. Bon,
donc ses prières allaient.
Oui, mais si tu laisses rentrer, ça, il rentre partout, lui, hein, le démon. C'est comme moi l'autre jour, tu dois partir et tu le vois pas. Tu t'en rends compte, peut-être c'est trop tard, quoi. Quand tu t'en rends compte, tu demandes pardon, évidemment. Il n'y a pas de problème. Mais pour la vie éternelle, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il n'y a pas de problème, mais ça fait partie des... Et donc le brave cher Père Jérôme, le Noaec, il a dû dire, bon, ça va, hein, je fais ce que j'ai pu, je vais... Et il s'est retiré ici, tout seul, mais tout en restant dans la hiérarchie du bon pasteur, la hiérarchie Saint-Pie-V, la hiérarchie. Tous les prêtres qu'il a formés, enfin, qui sont aujourd'hui prêtres, il les a envoyés à Écône, c'est tout. Où est-ce qu'il aurait pu les envoyer ailleurs? Heureusement qu'il ne les a pas envoyés à Saint-Jean. Hein. S'ils avaient envoyé Saint-Jean, on aurait eu la preuve qu'il n'était pas inspiré par Saint-Esprit, c'est tout. Même moi, tu sais, je suis allé chez Frère Saint-Jean, mais même moi. Tu sais pourquoi? Parce que Père Emmanuel me dit, dis-moi Patrick, bon, il faut quand même qu'on... Voilà, on nous demande de célébrer le sacrifice de la messe, tout ça. Bon, ce serait bien qu'on soit deux ou trois, peut-être, parce qu'on n'est pas... Je suis tout seul, je ne peux pas.
C'est vrai.
Alors bon, si vous voulez. Mais oui, mais il faudrait quand même, du coup, qu'on puisse... On dit, ah bon, bah oui. Mais où est-ce que tu vas? Il dit, mais le Père Jean, là. Jean, là, il n'est pas prêtre, mais il est allé Reims. Pour se préparer à la théologie, les ordres, etc., être présenté. Il dit, ben moi, je trouve ça. Moi, je veux bien rejoindre Jean pour ça. Mais il dit, écoute, voilà, toute façon, ils disent pour être. Et puis, j'avais dit, oh, je dis, il y a le frère Benjamin, là, il y a le frère Jacques, il y avait des ermites à Montmorin, ils étaient très sympas. Donc, Benjamin, lui, il était chez les cisterciens, trappistes d'Aigbel, ceux qui font du sirop. C'est près de Montélimar. Alors, je dis au père Emmanuel, je dis, oh, ben, on pourrait aller à Aigbel. Moi, je suis d'origine, j'étais charismatique au Dago, moi, hein, d'origine, avant d'arriver chez le père. Ah, avec Ben, oui, oui. Alors, puis Père Emmanuel, ça va. Bon, j'avais compris le trapélie du Père Emmanuel. Donc. La frugalité, ses vertus, j'avais compris. Mais aussi, ses ruses. Alors il me dit, mais et si tu allais à Fribourg, ce serait plus facile, parce que ça, la chose pourrait se faire. Alors je l'ai regardé, je dis, les frères Saint-Jean. J'ai eu envie de vomir. Quand il m'a dit ça, je vous assure. J'ai eu envie de vomir. Sinon. J'ai pas dit non, je dis rien. Rien dit.
Et qu'est-ce que tu penses, toi?
Oh, bah, je dis. Les reins, c'est belle. Attends, bon, il y avait 36 solutions.
Eh bien, entendu, Patrick. Entendu, Patrick. Tu iras chez Frère Saint-Jean.
C'est comme ça que je suis rentré chez Frère Saint-Jean.
D'accord.
Mais à reculons. À reculons.
Vous aviez déjà vu Brenda et...
Hein?
Vous aviez fait connaissance...
Non, pas encore.
Pas encore de Brenda.
De qui?
De Brenda.
Mais non, il est arrivé plus tard, lui. Il est arrivé. Les homosexuels sont arrivés bien plus tard. Ouais. Alors, je suis allé, c'était pas mon. C'est sûr que les petits gris, c'était pas mon style. C'était. Tu sais, c'était. Toi, tu peux le comprendre. C'était. C'était des BCBG. C'était pas bon. Je suis BCBC aussi, mais c'est pas mon truc. Je sais pas, j'aime pas, je suis pas à l'aise. C'est pas. Les gens peuvent pas comprendre ça, tu vois. Quand t'as un frère jumeau, tu peux pas être BCBG. C'est impossible. C'est impossible. Tu peux pas. Avec mon frère, on allait partout dans les endroits les plus misérables, les squats, les machins, l'Afrique, tout ça. La zone et tout. C'était génial. Parce que les BCBG, c'est pénible. Enfin, je sais pas.
Non, mais je pense que le père Emmanuel savait.
Les bobos. Il vote Macron en plus. Il vote. Hein?
Il vote Macron.
Non, c'est pas. Non, mais il croit à la République. Ils sont derrière les francs-maçons métapsychico-dingo, attirent l'arigot, des obsédés sexuels, tout. Ils fonctionnent quand jamais, les gars.
Mais le père Emmanuel savait que vous...
Quand ouais. Le père Emmanuel, j'en sais pas.
Il savait que vous auriez fait du bien à Saint-Jean, ah, je pense.
Oh non,
vous étiez ici.
C'était
il pas fallait quelqu'un comme vous.
Non, c'était pas tout son truc. Ah non, là, je peux vous le dire, c'était pas tout son truc. Son truc, c'est... Hein, allez, on va essayer de prendre... c'est le bordel, hein, donc on va essayer de prendre des miettes de pain là où on peut en tirer, puis comme ça, voilà, très bien, voilà, comme ça, on aura, comme ça, Jean a été ordonné prêtre, et puis finalement, moi aussi, mais là, ça, c'était une autre affaire, parce que Brennan était arrivé, là, et il voulait tout faire pour que je ne sois pas ordonné, le Père Emmanuel, justement.
Il vous a protégé.
Et là ?
Le Père Emmanuel vous a protégé, vous a imposé pour être prêtre.
Non, c'est pas comme ça, c'est pas ça. Non, une fois que tu rentres, tu comprends. Quand tu vis dans la vie monastique, quand tu vis l'obéissance, c'est le Seigneur te bénit. Tu vis pas dans l'obéissance, ben très bien. C'est une autre histoire. C'est les voies de Dieu, ça. Non, c'est pas calculé, c'est comme ça. Voilà, donc c'est pour vous dire que les fois de Saint-Jean, moi personnellement, j'y suis allé, mais humainement, religieusement, spirituellement, à contre-cœur, ça c'est pas à contre-cœur, parce que petit à petit, c'est ça, la bonne nouvelle, c'est qu'on a la grâce quand même de supporter, et puis finalement même aussi d'avoir de l'affection pour tout le monde. Hein. Et quand j'étais à Fribourg, c'était marrant parce que, notre habit de Montmorin était un habit tout déchiré, tout impeccable. C'était la chemise cardin en dessous de l'habit. Jean, tu imagines que le père Jean, hein, Montmorin, avec la chemise cardin en dessous. Il suffisait de regarder ses pieds. C'était. Bien sûr, et donc, on ne portait pas une attention à dire, ah voilà, on est quand même, la bourgeoisie métaphysique, l'autorité de lumière nouvelle, non, c'était pas notre style, à un moment.
Mais c'est vrai que c'est étonnant que le Père Emmanuel il ait pris l'habit de Saint-Jean, pourquoi il...
Non, c'est le contraire. Si les frères Saint-Jean ont pris un habit gris, c'est parce que nous avions cet habit-là.
Ah, on avait l'habit. Moi, je pensais que c'était l'inverse. Je pensais d'ailleurs que vous étiez rentré par Saint-Jean automatiquement parce qu'à Montmorin...
Non, pas du tout. Non. L'habit, ils ont pris l'habit. Quand ils ont pris l'habit, ils ont dit, tiens, à un moment donné, c'était des étudiants en philosophie. Mm-hmm. À Fribourg, hein, c'était des étudiants. Mais quand il y a eu un début d'oblature régulière monastique, ils se sont dit, peut-être on pourrait avoir un habit. Et comme ils connaissaient le Père Emmanuel, et donc ils ont pris le tissu. Léon, elle en a pu pour vous raconter. C'est elle qui avait apporté les tissus.
Donc c'est même ça, il n'y a même pas du Père Marie-Dominique.
Mais Marie-Dou, lui, était dominicain, il n'avait pas besoin de prendre la bigrée. Donc il est dominicain. Mais donc les frères Saint-Jean, ils ont dit Marie-Alain, Davout-Avastet, moi tout ça, bon, on va prendre l'habit. Ben, on va prendre l'habit du Père Emmanuel. Voilà. C'est à cause de nous qu'ils ont pris un habit gris.
Et pourquoi il était gris, le Père Emmanuel ?
Mais parce que Père Emmanuel, son habit, c'est un habit gris. Parce que chez les bénédictins, tu as un habit noir, mais tu prends un habit pour le travail, etc. Enfin bref, donc c'est cet habit-là qu'on avait. De toute façon, on était obligé de le prendre en gris parce qu'il n'y avait pas de tissu noir. Et c'est là que Léon, un jour... C'est à mon endroit. Bon, je vous raconte. dirai ça une autre fois parce qu'il faut dire la messe.
Je
savais pas tout. Et donc, la petite, donc notre habit, elle a amené du tissu gris. Et elle a amené du tissu gris.
D'accord, donc c'était bien tombé.
Voilà. Donc moi, quand je... C'était un tissu qui se déchirait. C'est du coup, pas du coton. C'est... Et puis nous, c'est... il n'y a pas de douche. Hein. On n'est pas BCBG à un moment. Hein. Il n'y avait pas pchit, shampoing, etc. Comme le frère Brice avec son Annès, là. Hein. Lui, c'est trois fois par jour, la douche, le machin. Le chien.
Il n'est pas resté longtemps, là, il est reparti. C'est le frère qui était venu là dormir à Saint-Badel.
Oui.
Il se promène avec son âne.
Ça fait 4 ans quand même qu'il fait son pèlerinage. C'est beau ce qu'il fait. C'est beau, mais c'est beau. C'est autre chose. C'est pas du tout avec lui. Je parle pas de lui. C'est pas ça que je veux dire. Ça c'est.
C'était pauvre à Montmorin.
Oui, c'est nous, bien sûr, à un moment, hein, il y avait pas de douche.
Il n'y avait pas de douche. Mais il y a certaines personnes...
Mais le père Emmanuel était propre.
Hein. Ah oui.
Et son ermitage était très propre aussi.
Ah, ben on passe le balai.
Il était très propre sur lui-même.
Ah, mais on passe le balai, et puis il disait aux gens,
mais vous n'avez pas besoin de savon.
Ah oui.
Prenez de l'eau, ça suffit. Parce que si vous prenez du savon, si vous prenez, ça abîme la peau. C'est, et si vous prenez du détergent, mais ça abîme. Mais tandis que si vous vivez de manière naturelle, normale comme le bon Dieu l'a voulu, mais à ce moment-là, la peau redevient normale.
Tu vas aller le rejoindre, le bon Dieu, comme ça, au moins tu seras content.
La peau redevient normale.
Oui, mais toi, alors, tu vas te momifier, donc il vaut mieux que tu fasses des exercices.
Non, c'est pas ça. La
peau redevient normale. Effectivement,
c'est des lois qu'on connaît quand même, parce que ça date pas d'hier. Les pères du désert, ça date pas d'hier quand même, depuis des milliers d'années. Et effectivement, si tu te laves, le matin, puis tu te relaves le soir avec du savon, les pores s'ouvrent, le lendemain tu pues. Il y a une expression chez nous, et tu pues. Ça veut dire que tu fais trop attention à ta peau. Tu te laves. Et le père Emmanuel, effectivement, tu pues. Ça sent mauvais. Tu peux pas vivre avec des gens qui puent. C'est impossible. Donc, un minimum de charité. Donc, et la pharmacogénèse. Et donc, le père Emmanuel dit, ben voilà, faites comme ça. Alors, mais pendant... Bon, c'est possible dans un ermitage. Hein, pendant 20 jours, on ne te voit pas, tu ne te laves pas. Et du coup, il n'y a plus jamais de mauvaise odeur. Plus jamais, c'est fini.
C'est vrai.
Mais, il faut... C'est une loi de la nature, le corps, comme tu regardes un chat, ça jamais... Un chat... Regarde les animaux,
ils font la toilette,
les chats sont pas mauvais.
Ils font leur toilette.
Ben oui, mais pas avec du savon, pas avec des détergents. Ils ne s'aseptisent pas, etc. Tiens, prends un chat et lave-le avec ce que tu vas voir. Si tu peux le supporter dans la maison, l'odeur qui va arriver après. C'est horrible, il n'y a rien de plus terrible que l'odeur d'un chat que tu as aseptisé, etc. C'est totalement insupportable. C'est comme ça. Enfin, mon père Emmanuel lui explique ça.
C'est très simple.
Il dit, bien sûr que de se laver, de prendre, ça peut arriver, bien sûr, quand tu fais des travaux avec des transpirations pas possibles. Ben, voilà, hein, tu vas dans la rivière, froide. Hein. Une fois par an, voilà. Saint Patrick, il ne s'est jamais lavé de toute sa vie, Saint Patrick. Il aimait la nuit, il se lavait avec ses diacres, il priait pour tous les gens qu'il avait vus dans la journée, et il se faisait plonger pendant 3 heures dans le torrent glacé de l'Armagh. Ben, tu vas chez les Frères Saint-Jean à Fribourg. C'est pas leur truc. Hein.
C'est dans les extrêmes.
Non, c'est pas un extrême, c'est pas leur truc.
Les uns sont trop.
Non, c'est pas trop, c'est pas la même chose. C'est pas. Ils ont été éduqués comme ça, c'est. C'est comme ça, je veux dire, hein, ils font... Du coup, ils sont fragiles, hein, pas seulement sur le point... Du coup, ils sont fragiles du point de vue de la chair à cause de ça aussi. Hein. Parce que si les pores s'ouvrent, il n'y a pas que... Il n'y a pas que il y a aussi la correspondance spirituelle. Et du coup, il y a des permissions de fantasmes intérieurs qui se font. Et pour les vaincre, tu peux toujours courir. Et oui, c'est comme ça. Et donc, comme, c'est pour ça, moi, aller à Fribourg, je ne m'en rappelle plus si je lui dis non. Non, c'est ce que je voulais lui. Je crois que c'est ce que... Non, je ne crois pas que je ne crois pas que ça... Parce que j'étais rentré justement pour ne jamais dire non. J'ai pris la décision, je dirais jamais non. Donc je ne lui ai pas dit non. Mais c'est pour dire, mais une fois que j'ai été là-bas, à Fribourg, et il m'aime bien, les frères, les petits frères, il m'aime bien.
Vous avez mis le grand bazar.
J'ai pas mis le grand bazar. Non. Mais j'ai pas mis le grand bazar. Mais les gens qui me connaissaient de Paris, etc., qui étaient à Fribourg, à l'école de la foi, parce qu'à Fribourg, il y a cette université, il y en avait du monde, qui me connaissaient et qui me voyaient au milieu du petit gris, en gris. Ils voyaient que le petit gris, sans savoir pourquoi, ou sans le savoir, mais en tout cas, c'était pas le même. Mes copains me disaient, c'était des amis, des frères qui j'avais fait visiter les squats pour annoncer le Christ dans les squats, les zones de Paris, tout ça, ils étaient là. Il y avait quelques-uns. Ils me disaient, mais quand on te voit au milieu de ces petits. Des frères de Saint-Jean là. On a l'impression de voir un chien fou dans un magasin de porcelaine fragile. Là. Elle dit, ah bon, oui, elle dit, oui, les pauvres. Et... Les pauvres. Avec le Père Menel, il fallait avoir les vertus.
Oui, ça
Frère Saint-Jean, les vertus, Père Marido. Il disait, si t'as la métaphysique, ça suffit.
Ben, ils ont parlé, mais après, pour mettre en pratique.
Non, il ne faut pas les vertus. Ben, il disait, Père Marito avait une. Il disait, on est dans une génération. Les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent pas avoir les vertus.
Il y a tous les types.
Oui, mais ça c'est un idéal, mais qu'aujourd'hui est impossible. Donc on ne peut pas. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas les vertus. Est-ce que c'est pour autant que du coup, non, vous ne devez, vous vous n'avez pas votre place dans l'Église catholique et dans la vie religieuse. Si, même si vous n'avez pas les vertus, vous rentrez en vie religieuse et c'est par la métaphysique qu'on sauve, qu'on sauve la situation. C'est la métaphysique qui nous purifie. Mais la métaphysique, ce n'est pas une vertu.
C'est pas magique non plus.
Hein?
C'est pas magique non plus. C'est pas magique non plus. Là. C'est pas par un claquement de doigts.
Mais si, pour la pensée de Marido, c'est magique parce qu'avec avec la métaphysique, toute notre capital est mobilisé. Hein? Du coup, notre. Du coup, ça remplace l'absence de vertu. Voilà. Et du coup, effectivement, les gens s'aiment bien, puisqu'on a en commun on a en commun quelque chose qui est très lumineux, hein, et très immaculé, parce que quand même la vérité a quelque chose d'immaculé. Hein. C'est vrai. Hein, l'acte pur, c'est l'un. Lousia, Bonhomme, Vérôme, Unhomme, justement, c'est ce qu'il va essayer d'expliquer samedi, Olivier Marie, là. Unhomme, la métaphysique dans les stats. Au début, l'enfant est créé par Dieu pendant les trois premiers mois. Il n'y a pas de vertu, puisque tu n'as pas eu le temps de poser beaucoup d'actes, il faut, pour avoir une vertu, il faut des milliers d'actes héroïques pour acquérir cette vertu-là. C'est pas inné, les vertus. C'est des vertus, c'est des actes héroïques. Héroïques. Alors tu demandes ça à des BCBG ? Aujourd'hui, Marido n'était pas idiot. Il dit, on ne peut pas demander ça à des jeunes d'aujourd'hui. C'est une génération qui ne peut pas faire des actes héroïques. Ils ne peuvent pas. Et c'est pour ça qu'on va remplacer par l'amour d'amitié, selon Aristote. Donc, les vertus et les domaines qui rendent fait que le cœur devient humain et supportable les uns avec les autres. Mais comme il n'y a pas les vertus, eh ben, il a fait une philosophie, selon Aristote, enfin, qui est la philosophie de l'amour d'amitié. Mais le problème, à ce moment-là, comme tu peux l'imaginer, ça a été celui-là. Ça a été... Alors, une formation, c'est vachement important, une formation, parce que il y a la correspondance théologique, théologale, donc surnaturelle aussi, dans la grâce, parce que si tu ne vas pas chercher les vertus héroïques dans le fruit des sacrements, si c'est pas là-dessus que tu concentres toutes tes forces d'acquiescement à l'opération du Saint-Esprit.
Ça ne peut rien fonder du tout, ça peut saupoudrer un peu la vie quotidienne, effectivement, de dire que la métaphysique, ça peut... Ça peut améliorer le quotidien, mais ça ne peut rien fonder. Tu ne fondes pas une communauté.
Ça purifie les pensées. D'accord ? Ça purifie les pensées. Là, c'est vrai. Ouais, moi, je suis tout à fait. C'est pas parce que je suis un.
Oui, mais peut-être pas fondamentalement. C'est-à-dire qu'après, on fond, s'il n'y a pas les vertus. En fait. S'il y a...
Mais oui, mais tout ça est. On est d'accord, mais...
Ça peut embellir les pensées, oui. Je veux dire, fonder une communauté sur ça, c'était risqué quand même. Parce que...
C'était ça ou... c'était ça... Comment dirais-je ? Mais il fallait sauver quelque chose dans... Marido. Il fallait sauver. Il était très, très, très conscient, lui, hein, que d'une chose, et à juste titre, qu'il fallait que la victoire des de Satan dans la franc-maçonnerie ecclésiastique ne soit pas éclatante. Voilà. Donc il fallait une exception. Il fallait faire une exception. Et les frères Saint-Jean, ça a été l'exception. Effectivement, quand ils ont vu arriver les frères Saint-Jean en habit, des jeunes, tac, qui priaient, qui se mettaient à genoux, qui tout ce que tu veux, c'est quoi cette histoire? Il y a 50 qui rentrent chaque année. C'est quoi cette histoire? On pensait que c'était foutu, qu'on avait gagné, que la franc-maçonnerie, tout le monde, enfin que. Voilà, Et en plus, arrive le pape Jean-Paul II qui disait, allez, j'ai vous choisi comme prêtre. Comment, c'est quoi cette histoire? Et donc là, ça, c'était le coup de bélier pour éventrer l'omniprésence et la toute-puissance de la franc-maçonnerie satanique dans l'Église catholique. Ça va au moins au fort externe.
Ça redonnait de l'éclat à la pensée chrétienne, mais après, pas forcément.
Oui,
à la chair,
mais au moins, c'est pour ça que quelque part, il a été soutenu par Marthe Robin. Parce qu'au moins, il fallait qu'il y ait, une trentaine d'années là où on puisse passer quand même. Hein, parce que c'était pas facile. Moi, toi, tu l'as pas connu, mais je peux te dire, l'Église catholique en France. Oh la vache, les années 50, 60, 70, quand j'y pense aujourd'hui, c'était d'une atrocité pure, toutes les paroisses, les prêtres, les machins, c'était atroce. Non, mais c'est vrai, bon, toi tu t'en rappelles pas parce que t'es tout jeune par rapport à moi, mais c'était pas croyable. Il y avait l'arrogance de la franc-maçonnerie ecclésiastique qui était omniprésente, victorieuse, à 100%, partout, dans toutes les paroisses. Ben quand même, qu'on le veuille ou non, Marthe, les Frères de Charité, et puis les Petits Gris, puis Sœur de Bethléem,
les Béatitudes.
Ah non, mais les Béatitudes, ça c'est un petit peu différent.
L'Emmanuel.
Ah non, mais ça c'est différent aussi, ça c'est charismatique, ça c'est...
D'accord. Était pire peut-être.
Si ah non, mais de toute façon, le bon Dieu, derrière moi par exemple, c'est grâce à ça que j'ai pu passer.
Oui, vous avez été ordonné prêtre, oui.
Par exemple. Père Emmanuel, pareil, Jean, c'est pareil. C'est grâce à ça qu'on a pu passer quand même. Ces 30 ans, on est passé alors que tu pouvais passer nulle part. Hein. C'est une souricière, hein. Tu ne pouvais pas passer. Tu avais la vocation depuis l'âge de 3 ans, 4 ans, 2 ans, tout ce que tu veux. Tu ne pouvais pas passer. C'était strictement impossible. Comme on voit Saint Paul, il dit, il y a les Sadducéens, oui, mais il y a des gens qui croient quand même que tu existes, qui croient à la grâce messianique, et qui croient au monde angélique, et qui croient à la résurrection. Hein? Mais les 90% des juifs de l'époque de Saint Paul n'y croyaient pas. Les Sadducéens. Hérode n'y croyait pas. Anne n'y croyait pas. Alexandre n'y croyait pas. Caïphe n'y croyait pas. D'ailleurs, c'était pas des juifs. C'était des faux juifs, finalement, de ce point de vue-là. On avait quelque chose de semblable, nous, hein, notre génération. les années 50. C'était effroyable. Et si tu disais, voilà, en affinité avec ce qu'on pourrait appeler la franc-maçonnerie, même si tu n'en étais pas, et que tu avais une vingtaine d'années, que tu acceptais, on disait, mais c'est normal, ça c'est tout à fait normal, ça c'est tout à fait normal, ça c'est tout à fait normal. Mais si on découvrait au bout d'un an de séminaire, que du coup tu rentrais, moi je vais être prêtre, pas tout. Hein, et si on découvrait au bout d'un an de séminaire que tu croyais au monde angélique, par exemple, à la résurrection, tu t'es viré du séminaire. Immédiatement. Je raconte quelquefois, quand en 75 j'ai arrivé, c'était pas le seul endroit, j'ai frappé au moins une trentaine de portes. En 75 j'ai arrivé à Toulouse, chez les Dominicains. On était 200 postulants, c'est pas que le médecinaire n'a appelé personne. Hein. Ils en ont pris un. Moi, je faisais partie de 199 qu'ils n'ont pas pris. J'étais pas homosexuel. Au moins, ils étaient sûrs avec lui. Je dis pas son nom, il est toujours pas mort. Donc, avec lui, ils étaient au moins sûrs qu'il ne ferait pas un bébé à la petite Maurassienne. Ça, c'est sûr. Mais c'est pour dire, Marido, il nous a sauvés quelque part avec Marido. Bon, il n'y a pas que Marido, mais bien sûr, hein, il y avait tout ce. Il fallait trouver des solutions, Père Emmanuel, tout ça, il fallait trouver des solutions où on passait, où on pouvait passer quand même. Sans être vu. Hein.
Donc c'était déjà une volonté de vouloir détruire l'Église qu'il y avait.
Mais le démon, il veut détruire l'Église depuis 2000 ans.
Oui, mais...
La révolution, c'est quoi?
Parce qu'il y avait des évêques tordus, déjà, aussi.
Mais c'est pas à cause des évêques, mais la révolution, c'est quoi la franc-maçonnerie, ça vient de la révolution, a produit la révolution pour supprimer la chrétienté en France catholique. Pour ça, tant qu'on est en France avec la République, donc il faut passer en dessous, il faut faire semblant avec, dans le régime républicain, la loi de la République française fait moi qui vous parle, je suis hors la loi. C'est interdit d'être moine, d'après la loi française, toujours en application, aujourd'hui. C'est interdit. Il y a juste le décret d'application qui a été suspendu. Mais la loi est toujours là. Donc, notre vie chrétienne, si on veut être avec des membres vivants de Jésus vivant, avec les vertus héroïques qui viennent miraculeusement fleurir en nous, dans cette génération totalement pervertie, et en plus devenue méchomique, alors là, n'en parlons pas, parce qu'à cause du méchôme en plus. Alors là, bon. C'est pour ça qu'il faut des profs de philosophie pour les jeunes d'aujourd'hui, parce que il faut qu'ils sachent quelque part que qu'il y a des voies cachés, qui font la dignité, la noblesse et la victoire du cœur, de l'âme et de la loi éternelle qu'ils sont. Ils comprennent qui ils sont, comment ils sont et où ils sont. Il faut les éveiller à ça. Et en plus, il faut prier, parce que c'est sûr. En plus, une fois que tu les as, tu fais comme Saint Patrick la nuit, tu pries pour eux. Parce que si tu essaies d'éveiller les gens que tu rencontres, parce que et tu pries pas pour eux, c'est comme exactement comme des impermanents, comme si tu pissais dans un violon.
C'est pour moi, je c'est pas musical.
Il faut prier pour eux, bien sûr. On les voit, on leur dit, et on prie pour eux. Et du coup, il y a quelque chose en eux qui se réveille. Et du coup, ils aiment Philo et la sagesse de la croix. Pour ça, et en plus, on a vraiment de la chance parce que, puisqu'on sait que ça va aboutir là pendant quand même, ça fait 234 ans, quoi, hein, que tout est coincé, quoi. Et c'est vrai, pour le royaume de France, enfin, je veux dire, le royaume catholique. De ce point de vue-là, on est coincé par de tous les côtés, par des interdits, des idéologies, tout ce que tu veux, des permissivités si tu veux, c'est pas ça, là, c'est pas ça le principal. C'est... Mais on sait que c'est fini maintenant. Voilà, il y a quelques mois et c'est fini. Terminé. Voilà. Savoir une Pentecôte. Quand même, ils ont. Vous vous rendez compte qu'ils ont quand même réussi à broyer complètement l'humain sur le royaume de France, qui est le véritable Israël de Dieu, qui est la terre élue, qui est le pays et la nation qui doit donner son fruit à tout ce que Dieu a produit sur la terre au point de vue de la grâce. C'est la seule nation par laquelle la résurrection doit se produire au plus grand désastre des infidèles de Lucifer. C'est le royaume de France, regarde. Il a fallu qu'ils en fassent des choses pour nous fossiliser, tu vois, pour quoi, quelque part. Je le raconte quand j'ai fait le sermon sur la mort de Louis XVI. Je dis quand même, on a le droit de dire aux jeunes, ils ont le droit de savoir dans quel où est-ce qu'ils sont nés, quoi. Ils sont nés. Parce qu'il y a eu un sondage. Tu comptes le nombre d'habitants dans un pays. Ça s'appelle un
recensement.
Voilà, donc le recensement. Quand Louis XVI s'est marié avec Marie-Antoinette, ça y est, ça c'était sûr que la descendance de David allait pouvoir produire son fruit. Donc pour les francs-maçonneries de l'Angleterre, etc., pour l'empêcher, on dit bon, ben voilà, on va faire. Il faut organiser la révolution en France parce que. Voilà, et donc c'est là que la maçonnerie a envahi la France. C'était pas en 1793, hein, pour la maçonnerie, hein, c'était en 1770, quelque chose comme ça. Même un petit peu. Pour ça, à cause de ça. alors qu'ils ont affamé les francs-maçons, s'en abriaient pour brûler tous les silos, pour que... Il y avait quand même 30... Et on savait, donc à ce moment-là, qu'il y avait 39 millions, c'était le pays le plus peuplé de tout du monde, hein, la France, le royaume de France. Parce que les gens travaillaient, c'était des chrétiens, et puis ils se partageaient entre eux, et puis il y avait... Service de gratuité. En fait, c'était du coup, tu pouvais avoir 12, 15, 30 enfants, il n'y a pas de problème. Et puis c'était des saints. Puis c'était génial, la France. Et la révolution est arrivée, ils ont zigouillé tout ce qui pouvait avoir le nom de chrétien, catholique, de prêtre, tout ce que tu veux. Si bien qu'à la fin de la Révolution, on était plus de 19 millions d'habitants. Ça fait plus de la moitié qui ont été assassinés. En philosophie, quand même, on a le droit de faire l'histoire de la philosophie, ou la philosophie de l'histoire aussi. C'est-à-dire la recherche de la vérité sur l'histoire. On n'a pas... Pourquoi dire que c'est impossible? C'est pas impossible, on peut toujours dire, du moins aimer en tout cas, ou passionner les gens. Les jeunes, ils sont ouverts à ça, ils sont passionnés de dire oh, mais non, ça, mais on nous avait jamais dit ça. C'est vrai. Tu connais, toi, un pays dans le monde? La fureur de Satan est tellement grande qu'ils ont tué plus de la moitié de la population. Pas dans les mauvais ans, hein, dans les bons. Et il y a des gens qui sont catholiques aujourd'hui et qui vont... encore voter. Ils sont complices de ça. Ils y croient encore. Ils croient encore que c'est pas... que c'est normal. C'est dingue. C'est complètement dingue. Bon. Ben ça c'est terminé parce que le roi arrive et en ouais, 90 tu es de la génération, toi tu vois, alors c'est bien, c'est merveilleux. Moi aussi finalement, hein, puisqu'on ne connaîtra plus la mort, donc ça va. Quand ils ont vu Jésus ressusciter entre les morts, ça a duré quand même 40 jours, hein. Jérusalem, ils ont vu résister. Et ils s'y attendaient quand même pas. Parce que il n'y a pas que les disciples qui ont vu Jésus ressusciter caché dans le cénacle. Hein. À un certain moment, ils étaient des centaines et des centaines. Et puis surtout, ils le voyaient. Donc quand ils revoyaient Jésus de loin dans la rue de Jérusalem, etc., avec les disciples, quoi. Vite cachés chez eux. Ils ne s'attendaient pas à ça. Si mon Dieu, ils savaient qu'il était assisté, témoin quand même. Les soldats, tout ça, il fallait payer pour qu'ils ne disent rien. Et tous ces dirigeants, et tous ces juifs, tous ces machins qui étaient... Bon, ils le savaient qu'ils étaient ressuscités, ils étaient terrorisés. Hein. Ils disaient, putain, voilà, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Là, c'est ce qui va se passer pour nous. Il va y avoir une grâce de résurrection et de victoire. définitif sur le mal. Il faut que le grain de blé tombé en terre meure. Alors, il va produire son fruit de manière éclatante. Alors, ben, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire de savoir que c'est pour nous, ça. C'est génial. Et en plus, on sera habitué pendant des 234, on sera habitué à faire à ce que ce soit sans être vu. On est passé. Ça ne nous gêne pas. Ça ne nous gêne pas du tout. Moi. Sans être vu, le roi, personne ne sera qui c'est. Personne ne sait qui est le roi. Où est-ce qu'il est? Qui c'est? Personne. Quand tu es allé à Nazareth, c'était l'évangile il y a 8 jours, mais c'est le fils de Jésus, mais le fils de Joseph et de Marie. Ils sont de chez nous. On les connaît très très bien. Il disait ça. On les connaît très très bien. Ils connaissaient très très bien Marie et Joseph. Ils connaissaient très bien Marie et Joseph. Ils ne savent rien du tout, ils n'ont rien vu. On les connaît très bien. On les connaît très bien. Et, nous, et ça, c'est ça qui va se passer. Parce que là, on va avoir, du coup, dans les 30 années qui viennent, là, ils vont dire, mais on les connaît très bien. On connaît très bien Marie-Myriam, on la connaît très bien. Mais à l'intérieur, ils ne connaissent rien du tout. Parce qu'ils sont incapables de voir ce qui se passe à partir du oui qu'elle va produire au jour de l'avertissement dans 3 ans. Donc ça, elle, du coup, sa vie sera invisible aux yeux de l'Antichrist, désaffidée, et de tous ces... Tu ne pourras pas voir la différence entre les membres vivants du roi vivant, vivant des fruits, de tous les fruits des sacrements. Tu ne pourras pas voir la différence entre lui et quelqu'un qui est complètement pervers. Tu ne pourras pas voir la différence à l'extérieur. Tu ne pourras pas voir la différence à l'extérieur. Ils n'ont aucun accès. Aucun. Ils vont avoir aucun accès. Et ce sera tellement extraordinaire. Hein, c'est beau l'humilité pour ça de ce point de vue-là. Ce sera tellement extraordinaire que du coup, cette grâce, cette grâce-là, qui est la grâce du royaume de Dieu, établie dans le corps originel et le corps spirituel, engendré par la Sainte Famille en nous dès cette terre, ça va augmenter. Et la terre va s'ouvrir et l'Antichrist sera anéanti. Ça se verra dans toutes les télévisions, ça on le verra tous. La terre va s'ouvrir, lui il va faire des miracles, des trucs comme ça, il sera précipité dans le feu du Tartare, mais un feu visible, hein. Et il va griller, il fait chaud dans le Tartare, je veux dire. C'est pour l'éternité. Mais ce sera à cause c'est à cause du ça sera comme ça. Voilà les 30 années qui sont devant nous. On sait exactement les dates, puisque le pape a déclaré Irénée docteur de l'Église pour les fins dernières. C'est exactement les dates. Bon, est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous saisissez, hein?
On croit saisir, on croit comprendre.
Ah, tu vois?
Je suis pas certaine.
Voilà. Nous, on n'a qu'une seule chose à faire. C'est très simple, c'est de dire oui. mais immédiatement. J'avance, mais peut-être que... en théorie, on s'habitue en théorie. Immédiatement. Et du coup, là, on est... Mais que tu dises oui immédiatement, à la manière dont tu as dit oui 9 mois, 8 mois et 7 mois avant la naissance, hein, hein, c'est pas parce que tu as un cerveau, puisque à ce moment-là, tu n'as pas de cerveau. Et pourtant, c'est un oui d'une intelligence, d'une lucidité parfaite et d'une liberté personnelle totale. C'est ça qui va être réouvert là. Ce qu'on appelle l'ouverture du cinquième saut de l'Apocalypse. Hein? Là. Bon, ben, il faut déjà s'y accoutumer. C'est une grâce qui ne vient pas de nous, parce que c'est Dieu qui le fait, c'est Dieu qui nous crée, c'est Dieu qui... C'est la paternité vivante de Dieu qui déploie tous ces délices à l'intérieur du corps spirituel qui est le nôtre, parce qu'il est engendré par la Sainte Famille Glorieuse, dans lequel on s'introduit nous, pour qu'ils engendrent corporellement cette grâce qui va venir. Voilà, et que le pape décrète de voir arriver, si j'ai bien lu, voilà, 2026. Il ne faut pas dire les dates. Non, mais la date de la fin du monde, pas de la parousie. La parousie, on peut savoir quand même. Non, mais la rose que vous avez amenée, c'est une rose immortelle. Allez. L'air de rien, regardez, on discute, ça fait déjà 2 heures.
Vous aviez besoin de parler.
Hein?
Vous aviez besoin de parler.
Mais je ne peux pas célébrer la messe. Si on n'est pas branché, si on n'est pas branché sur la même grâce de Dieu pour la recevoir. Oui. Parce que c'est l'intention qui fait la messe.
Peut-être encore une heure de plus. Pour que je sois bien branché.